Il me faut forcément plus de temps pour parler. En 3 mois, j'ai déjà appris l'accent. Ça fait tellement, mais tellement plaisir d'être ici, de vous voir. On se réjouissait, toute la famille était super excitée de se dire, on va passer ce week-end à Marguerite, on va vous revoir tous les uns et les autres, et vous imaginez pas à quel point ça peut réjouir nos cœurs, et c'est pas juste des mots. Nos cœurs sont réjouis d'être à la maison. On a une autre maison, c'est aussi notre maison, on va très bien, on est très bien là-bas, tout avance bien, voilà, on pourra vous donner des nouvelles pendant le repas. Donc on va bien, mais on est à la maison ici, ça fait du bien de revenir dans son histoire, dans ses racines. Donc merci. Merci d'être là, merci de nous accueillir avec toujours autant de sourires, avec toujours autant de câlins. On recharge les batteries d'amour et de, voilà, de famille ici. Donc merci vraiment à chacun d'entre vous. Et puis les anciens m'ont pas fait un cadeau. Parce que je crois que vous êtes dans Josué en ce moment. Et puis tenez-vous bien, moi j'ai 7 chapitres à traverser aujourd'hui, de Josué 13 jusqu'à Josué 19. Donc ça va être un petit peu long. Je suis désolé. Non, je vais raccourcir. En fait, j'ai lu un article. Moi, cette semaine, c'était marrant parce que finalement, c'était en lien avec le message que j'étais en train de préparer. Alors, c'est un article qui est dans une, c'est une étude suisse. Hein, je lis plus les mêmes articles qu'avant. Et forcément, du coup, c'était une étude suisse. C'était sur les nouveaux milliardaires parce que ça nous concerne davantage quand même à Genève qu'ici, dans le sud de la France. Vous savez, on vit dans la troisième ville la plus chère au monde. C'est aussi cher que New York, donc ayez un peu de compassion pour nous, s'il vous plaît. Donc voilà, une étude à propos des nouveaux milliardaires, et puis c'était intéressant, parce que cette étude, elle disait qu'il y avait une proportion de plus en plus grande de ces nouveaux milliardaires qui étaient des héritiers et pas des entrepreneurs. Et en fait, il y a beaucoup de milliardaires qui sont des entrepreneurs, qui ont lancé des sociétés et qui se sont enrichis par ce qu'ils ont créé. Et de plus en plus, plus l'histoire avance et plus le temps avance, et plus les nouveaux milliardaires sont simplement en fait des héritiers qui viennent récupérer ce qui a été planté par les parents avant. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, en fait, ça fait tourner la tête presque de se dire, mais il y a des fortunes immenses qui sont transmises comme ça à des gens qui n'ont même pas particulièrement œuvré pour avoir ces fortunes-là. Et ça fait tourner la tête. On a même du mal à comprendre ces chiffres-là, de dire, mais qu'est-ce qu'ils font alors qu'une vie entière suffit pas pour dépenser ces fortunes-là et elles sont transmises comme ça. À une nouvelle génération, transmise de génération en génération. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, parce que Josué 13 à 19 nous raconte la même chose. Et il nous parle aussi d'un héritage qui est absolument colossal, même bien plus grand que beaucoup des héritages qui sont là. Il nous parle d'un pays tout entier. Je ne sais pas si vous entendez souvent des gens qui héritent d'un pays, mais c'est pourtant ce qui se passe. Dans Josué 13 à Josué 19, on a une histoire où le peuple d'Israël entre en possession de cette terre qui était promise. Un héritage monstrueux, un héritage colossal, quelque chose qui fait tourner la tête quand on y réfléchit, de dire comment Dieu promet quelque chose d'absolument immense et comment il tient sa parole et comment il mène à terme tout ce qu'il a promis. Et donc ces chapitres, ils nous parlent d'héritage. Mais je voudrais vraiment, pour éviter toute mauvaise compréhension dans notre manière de le transposer dans nos propres vies, je voudrais qu'on voit plutôt ce matin l'héritage comme la promesse, comme l'accomplissement des promesses. Et je voudrais qu'on regarde l'héritage comme l'accomplissement de ce que Dieu a promis, plus que comme l'héritage lui-même. Et puis vous verrez pourquoi je vous propose qu'on le voit comme ça. Et si on regarde la promesse, Dieu, il a fait une promesse à Abraham en Genèse 15:7. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Il promet ça à Abraham. Et puis il renouvelle cette promesse à son fils, à Isaac. Il lui dit dans Genèse 26:3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et puis une génération passe encore et Dieu renouvelle encore cette promesse à Jacob dans Genèse 28:13 où il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Puis Dieu rappelle encore cette promesse à Moïse. En Exode 6, 8, il lui dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Puis, Dieu rappelle encore cette promesse qu'il a faite à son peuple, à Josué. En Josué 1, 2, il lui dit « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Waouh, comme Dieu est fidèle dans la promesse qu'il fait génération après génération. Et voilà pourquoi j'aimerais qu'on ne regarde pas juste l'héritage comme un héritage, qu'on ne regarde pas juste l'héritage comme une possession, mais qu'on regarde ce dont on hérite comme Dieu qui accomplit une œuvre, comme Dieu qui tient sa promesse, comme Dieu qui, au travers des générations, fait que sa parole ne revient pas sans avoir produit son effet. Et je pense que ça nous amène à regarder davantage Dieu et ce qu'il fait plutôt que ce que nous en obtenons. Mais on regardera quand même tout à l'heure quel est notre véritable héritage. Donc Dieu rappelle à Josué en fait la promesse qu'il avait faite à ses pères, à ses ancêtres, la promesse qu'il a faite et il lui demande d'aller. Et qu'est-ce que fait Josué ? Mais ça vous l'avez vu normalement parce que vous avez déjà vu Josué 1 et tous les restes. Josué, il obéit. Il passe le Jourdain et tout le peuple avec lui. Ça s'accompagne de nombreuses batailles. Vous avez dû voir ça aussi. Et il y a un moment qui arrive où il y a juste une partie du pays qui reste encore à soumettre. On a les Philistins au sud qui ne sont pas encore battus, les Phéniciens au nord, mais la grande force du pays est battue. Le pays est conquis. Et c'est dans cet état-là que commence Josué 13. Premier chapitre qu'on voit ensemble. Le pays est conquis. Israël est dans le pays. Il a mené les batailles principales. Il n'y a pas trop de crainte que les Philistins ou les Phéniciens viennent envahir quoi que ce soit. Donc le peuple est dans une sorte de paix. Et moi, ça me parle. Le fait de voir que Josué a eu besoin de se lever, de passer le Jourdain, et de mener des batailles pour quelque chose que Dieu avait promis. Ça me parle sur le fait que, est-ce que quand Dieu promet quelque chose, ça implique qu'on attende patiemment que Dieu agisse ? Uniquement. Bien sûr qu'on doit attendre patiemment et avec foi et avec espérance que Dieu agisse. Mais ces chapitres, ils nous montrent qu'il y a une implication de notre part dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos propres vies. Il y a une implication avec Dieu dans ce qu'il veut faire en nous, pour nous et au travers de nous. Ces chapitres, ils nous montrent que ce n'est pas toujours facile. Ces chapitres, ils nous montrent qu'il y a des batailles à mener, qu'il y a des combats qui sont devant nous et qu'on ne peut pas juste s'asseoir et attendre les promesses que Dieu va faire. Dieu agit dans toute l'histoire, et il fait les choses comme il veut, et il n'a pas besoin de nous pour faire ces choses, mais il a choisi que ça passait aussi par nous. Et il y a des batailles devant nous, il y a des combats à mener pour les promesses qui sont là devant et qu'on ne voit pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennemi qui cherche à dévorer. Soyons clairs avec ça et ayons les yeux bien ouverts sur le fait que Satan, c'est une vraie réalité. Il a été vaincu, mais il œuvre encore et il est comme un lion rugissant, qui rôde et qui cherche à dévorer. Est-ce que cela met en péril l'héritage ? Est-ce que cela met en péril la promesse ? Non. Mais est-ce que ça rend réel le combat ? Oui. Oui. Il y a des batailles parce qu'un ennemi cherche à dévorer. Mais dans ce combat, souvenons-nous que Satan est vaincu, que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles ne sont pas mises en péril parce que Satan peut faire. Donc, gardons toujours les yeux fixés sur celui qui a fait la promesse, fixés sur celui qui dit « Je vous donnerai » et il donne. Plus que nos yeux fixés sur l'ennemi. Amen. Amen. Mais il n'y a pas que des batailles parce qu'on a un ennemi qui cherche à dévorer. Il y a aussi des batailles parce que c'est l'épreuve de notre foi. Et je pense que c'est bien d'en être conscient. J'ai dit tout à l'heure, Dieu, il peut faire les choses sans nous. Il aurait très bien pu, d'un claquement de doigts, vider Canaan et y installer le peuple. Il aurait pu, mais il n'a pas choisi que ce soit comme ça. Parce que Dieu veut nous impliquer, Parce que Dieu veut mettre notre foi à l'épreuve. Dieu veut que notre foi soit dans l'équation de ce qu'il fait et de ce qu'il promet. C'est un témoignage tellement puissant sur la terre quand nous œuvrons avec foi, quand nous obéissons avec foi, quand nous répondons avec foi et que nous pouvons témoigner que nous avons vu Dieu victorieux au travers de ces pas de foi que nous avons faits. Ça fait de nous plus que des robots, des marionnettes. Ça fait de nous plus que des pions sur un échiquier que Dieu bouge comme il veut. Ça fait de nous des fils et des filles, vivants. Moi, je ne veux pas être parmi ces milliardaires qui héritent. Je ne crois pas que ce soit juste qu'on soit juste des milliardaires assis sur un canapé parce qu'à un moment donné, papa est décédé. Il y a des batailles parce que c'est l'épreuve de notre foi. C'est vrai, c'est une réalité. Alors comment est-ce qu'on gère ces promesses de Dieu? Comment est-ce qu'on gère ces moments où Dieu a parlé dans nos vies ou a parlé autour de nous et où on est encore dans l'attente que ces choses elles s'accomplissent? Je crois que c'est un peu ce dont nous parlent ces passages ce matin. Et je voudrais juste nous rappeler quelque chose qui est important. C'est comment Dieu appelle, comment Dieu prépare et comment Dieu envoie. Et dans nos vies, par rapport aux promesses que Dieu nous fait, on s'attend des fois à ce que Dieu nous parle et qu'au même moment, il nous envoie. À ce que Dieu dise, je te donnerai un pays et au même moment, on est dans le pays. Et cette histoire, elle nous montre que ce n'est pas ça. Qu'il y a un temps de combat, un temps de préparation, un chemin qui traverse des générations, parfois, pour rentrer dans ce que le Seigneur a parlé sur nos propres vies ou a parlé sur notre Église. Ou sur notre famille d'église. Et j'aimerais prendre l'exemple de David dans la parole de Dieu. David, il a été oint pour être roi quand il était jeune. Il a été oint pour être roi. Il a été appelé par Dieu. Il avait cette promesse. Dieu avait fait le serment. Il avait été oint pour ça qu'il allait être le roi d'Israël. Et pourtant, David, il est roi 20 ans plus tard. Seulement 20 ans plus tard. Pendant 20 ans, David a attendu que cette promesse s'accomplisse. Il savait qu'il était oint pour être roi, il avait déjà été oint, il a dû attendre 20 ans. Il a fait quoi pendant ces 20 ans? Il a fait quoi dans l'attente de cette promesse? Il a fait sa part. Il a fait sa part. Il s'est préparé avec foi. Dieu a promis. Dieu fait sa part, mais David a fait la sienne. Il s'est préparé avec foi dans l'attente de l'accomplissement. Il allait prendre soin d'un peuple, il a d'abord pris soin d'un troupeau. Et il a été fidèle dans le fait de prendre soin d'un troupeau. Et ça l'a qualifié pour pouvoir prendre soin d'un peuple tout entier. Il a tué des lions, il a tué des ours pour protéger son peuple, avant de tuer Goliath, avant de vaincre des armées. Il a loué son Dieu de tout son cœur, avec toute sa passion, alors que personne le voyait ou pouvait l'entendre dans le secret, avant de mettre en place et d'organiser toute la louange devant la face de Dieu, au milieu du peuple. Donc, David était prêt quand il a été envoyé pour être roi. Il était prêt. Il n'attendait pas juste le moment où la porte s'ouvrirait pour qu'il le soit. Il s'est préparé. Et voilà pourquoi il y a du temps, des fois, entre les promesses de Dieu dans nos vies et leur accomplissement. Parce qu'on a besoin d'être prêt pour rentrer dans ces choses-là, les amis. On a besoin de grandir dans nos cœurs. On a besoin d'œuvrer fidèlement dans des petites choses, puis dans des plus grandes, puis dans des plus grandes, pour que ce que Dieu promet dans nos vies prenne vie. Amen. C'est pas dans la parole de Dieu. Mais pour Véronique et moi, c'est aussi ce qui s'est passé. Quelques mois avant notre mariage, Dieu nous avait parlé de quitter, de partir au nord, particulièrement d'implanter des églises. Dieu nous a parlé précisément sur ce qu'il voulait faire avec nos vies avant même qu'on soit mariés. Et puis pendant tout le temps de notre mariage, il nous a rappelé par de nombreuses personnes différentes et de nombreuses situations différentes ces mêmes paroles. Et puis c'est 18 ans plus tard seulement que le temps était prêt, que le temps était mûr pour que la porte s'ouvre et qu'on parte et qu'on quitte tout. Et est-ce qu'on a attendu, simplement ? Au départ, oui. Quand Dieu nous a parlé là-dessus, je vous avoue, on avait les valises dans les mains presque, et puis on se disait, ok, c'est où ? C'est où qu'on va ? Seigneur, on veut suivre, mais c'est où maintenant ? Jusqu'à ce que le Seigneur travaille dans nos cœurs et nous fasse comprendre que non, c'est le moment de poser ses valises, c'est le moment d'investir, c'est le moment de travailler, c'est le moment de travailler notre terre, c'est le moment de créer des relations, c'est le moment de nous établir ici jusqu'à ce que le temps soit prêt où Dieu nous enverrait. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a œuvré fidèlement au milieu de vous pendant toutes ces années, avec toujours dans l'idée que Dieu avait parlé, mais sans attendre après ça. Pour nous épanouir pleinement, pour servir Dieu pleinement, pour être pleinement ici. Il n'y avait pas 10% de nous qui étaient ailleurs. On était 100% au service de Dieu ici, en attente que. Et on a été préparé ici. On a été forgé ici. On a été taillé ici. On a été formé ici. On a été... Combien de batailles, combien de luttes, combien de victoires on a vécu tous ensemble et combien de défaites aussi. On a tellement appris là. Pour ce que le Seigneur veut utiliser maintenant ailleurs. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, mais on est conscient d'une chose, c'est que ce qu'on a vécu ici sert pour ce qui est devant nous et qu'on n'est plus les mêmes aujourd'hui alors qu'on part qu'au moment où Dieu nous a parlé clairement. Et merci Seigneur que je ne sois plus le même homme. Merci. Et Seigneur, il y a encore à travailler un peu. Mais ça a été difficile pour nous de quitter, vous le savez, on vous l'a dit, et on a assez pleuré par rapport à ces choses-là. Ça a été difficile de tout lâcher et de partir loin. Mais c'est la petite part que nous, on a fait dans la promesse que Dieu veut faire. Et c'est notre part. Et on ne peut pas la négliger. Et Dieu ne peut pas choisir de faire une œuvre avec nous dans la ville de Genève si nous, on ne quitte pas pour y aller. On a une part à faire. Et chacun d'entre nous, dans ce que Dieu nous promet, Dieu fait sa part. Dieu promet, Dieu travaille, Dieu agit, c'est évident. Par-dessus nous, tout le temps. Avant nous et après nous, mais il a besoin que nous fassions notre part. Il a besoin que nous fassions notre part. On ne peut pas juste attendre que les promesses de Dieu arrivent et s'accomplissent. On doit œuvrer pour ces choses-là. On doit se lever, on doit passer le Jourdain et entrer dans ce que Dieu nous donne. Et on revient donc à Josué et au peuple qui a conquis le pays promis. Pendant 5 à 7 ans à peu près, les différentes tribus, elles sont là dans le pays parce que l'essentiel des batailles avait été mené. J'ai dit, il restait quelques zones encore, mais globalement le pays était conquis et le pays était en paix. Et pendant 5 à 7 ans, on a les tribus qui sont là dans le pays promis à Israël, dans la terre promise, dans le lieu que Dieu avait promis, le lieu de l'accomplissement de la promesse. Et pourtant, elles n'ont pas encore pris possession de l'ensemble des territoires de ce pays promis. Pendant quasiment 7 ans, elles sont là. Il y a une sorte de repos après la fatigue, après les luttes, après les combats qu'il y a eu à mener, après les batailles qu'il y a eu sur lesquelles on avait besoin de voir une issue et où ils l'ont vu de manière miraculeuse parce que Dieu a été avec eux en permanence. Mais ils sont fatigués et ils se reposent parce qu'ils sont dans la terre promise. Mais pourtant, la Bible nous dit, ils n'ont pas pris possession de cette terre-là. Ils sont juste dans la terre et ils n'ont pas pris possession, ils ne sont pas pressés de distribuer de manière légale le pays entre les différentes tribus. Et puis en attendant ça, Josué, lui qui devait présider au partage, il devenait de plus en plus vieux. Et donc, il était temps de mettre fin à cette espèce de stagnation qu'il y avait d'Israël. Israël avait vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans beaucoup de choses. Ils avaient vu des victoires, mais là, ils étaient dans un état de stagnation, un état de repos. Et c'est comme ça qu'on peut s'expliquer ce qui se passe dans Josué 13 au tout début, l'ordre que l'Éternel donne à Josué, Josué 13 de 1 jusqu'à 7, où il nous dit « Josué était vieux, avancé en âge, et l'Éternel lui dit alors « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est grand. » Le pays qui te reste à toi, la part que tu dois faire à soumettre est très grand. Divise maintenant ce pays par portions. Et si je peux le traduire en d'autres termes, c'est va au bout de la promesse que j'ai faite à mon peuple. Grosso modo, c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué. Va au bout. Va au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas après les premières victoires. Je crois qu'on a besoin des fois d'un peu plus de foi dans la perspective des promesses de ce que Dieu veut faire au travers de nous. On a besoin de se rappeler que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de qu'on ait des gens super ou qu'on ait des gens hyper doués. Ça dépend juste du fait que Dieu a promis qu'il allait faire des œuvres absolument incroyables au travers de nous. Et ça ne met pas le focus sur nos qualités. Ça met juste le focus sur notre obéissance et notre foi dans le fait que Dieu a choisi de faire des choses au travers de chacun d'entre nous. Et bien sûr qu'il y a des combats. Et bien sûr qu'on est satisfait quand des victoires ont été remportées. Et bien sûr que la notion de repos, elle est importante et elle est profondément biblique. Mais vous savez quoi ? Le repos dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour se reposer du passé. C'est pour prendre les forces pour ce qui est devant. C'est comme ça que la Bible parle du repos. Et ne cherchons pas le repos parce qu'on est épuisé de ce qu'il y a derrière. Cherchons le repos pour retrouver les forces pour ce qui est devant. Attrapons une perspective pleine de foi sur ce que Dieu met devant nous. On est loin d'imaginer ce que Dieu veut faire et ce que Dieu peut faire au travers d'une communauté comme celle-là. Imaginez le nombre de personnes qui se rassemblent ici. On a parlé des fruits du Sozo pendant 12 ans ce matin. On a honoré ce ministère-là qui prend une forme différente maintenant. Mais combien d'autres fruits il y a dans cette église année après année parce que des gens servent, des gens se lèvent, des gens vont au bout. Et donc on a besoin d'attraper ça, cette perspective-là de la promesse que Dieu fait. Pourquoi ? Parce que ça donne de la force dans la marche. Si je marche sans savoir où je vais, je me fatigue. Vous avez déjà fait une rando où vous ne saviez pas quel but vous vouliez atteindre ? Je déteste ça. Je déteste quand on marche juste pour marcher. J'adore randonner, j'adore aller sur un sommet qui est dur à atteindre et d'en baver pour y aller, oui. Par contre, si c'est juste balader pour balader, bah, je déteste ça. Mais je crois que c'est... Ben voilà, c'est... Vous avez le droit d'aimer balader pour balader. Hein. Pas de souci là-dessus, on n'est pas tous obligés de faire des randonnées. Mais ça me parle par rapport à ça. Je trouve que, voilà, on a besoin de vision pour marcher. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir ce que Dieu dit dans nos propres vies pour avoir la force et le sens de pourquoi est-ce qu'on a besoin de repos pour les batailles qui sont devant nous. Pourquoi ? Quelle est la trajectoire sur laquelle on est et les batailles qui sont devant nous et ce qu'on a besoin de remporter. Ok ? Donc on a, dans cette histoire de ces 7 chapitres, on a certaines tribus dont il nous est dit qu'elles ont déjà reçu leur part de l'autre côté du Jourdain. Avant même que le peuple passe le Jourdain, on a Ruben, Gad, on a la moitié de la tribu de Manassé qui a déjà reçu la part qui leur revenait. Et moi, ça me parle dans le sens où c'est sûrement le cas pour plusieurs d'entre nous, où on a déjà vu l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies ou au travers de nos vies, et on en est encore au bénéfice de ces promesses-là qui se sont accomplies. Et je voudrais juste nous encourager que c'est une occasion d'être reconnaissant, et c'est une occasion de rendre gloire. Ne soyons pas blasés de ce que Dieu accomplit dans nos vies, mais regardons ça comme des grâces incroyables, comme une manifestation de la puissance de Dieu et du fait qu'il est vivant parce qu'il fait des choses dans nos propres vies. Et soyons reconnaissants pour ces choses-là. Si vous êtes ce matin en capacité de vous souvenir de promesses que Dieu a faites dans vos vies et qu'il a accomplies, soyez reconnaissants. Rendons gloire pour ces choses-là. La reconnaissance est un tremplin pour ce qui est devant. Et on a d'autres tribus, Judas notamment, et puis Caleb parmi Judas, qui reçoivent leur part maintenant. Il leur est donné Hébron pour Caleb, et puis il y a un territoire qui est donné à Judas. Et c'est peut-être le cas, moi ça me parle, sur certains d'entre nous où on voit en ce moment l'accomplissement de promesses que Dieu avait faites. On est en train de voir que Dieu fait des choses. Et de la même manière, pour moi, c'est une occasion de rendre gloire, d'une part, pour ce que Dieu est en train de faire, mais en rendant gloire pour ce que Dieu est en train de faire, je voudrais nous encourager à ce que ce soit une occasion de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Combien il est important de pouvoir dire « Je vois aujourd'hui le Seigneur faire ça. » Parce que c'est un tremplin de foi pour tous ceux qui sont dans l'attente que Dieu fasse des choses. On a besoin de témoigner les uns aux autres de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, même si on n'en voit pas l'accomplissement. Et je crois que c'est aussi un témoignage de foi que de dire à haute voix ce que le Seigneur est en train de faire, parce que ça veut dire qu'on témoigne sur ce qu'on croit que Dieu fait. Et c'est une démarche de foi, et elle est importante. On a d'autres tribus, comme le reste de Manassé ou Éphraïm, qui reçoivent une part dans laquelle il y a des combats à mener encore. Et où ils tergiversent avec Josué d'ailleurs en disant « Mais tu nous donnes ces parties-là, mais il y a des chars blindés, il y a des fortifications, il y a des zones qui sont difficiles. » La réponse de Josué, c'est « Ok, eh bien les gars, préparez-vous. Préparez-vous au combat. Préparez-vous à combattre. Parce que oui, dans les territoires que vous recevez, il y a des fortifications, il y a des ennemis qui sont là encore, et il va falloir les soumettre. » Et ça me parle sur le fait que pour beaucoup d'entre nous, je pense, Dieu a parlé dans nos vies, mais il y a encore ces fortifications. Il y a encore ces chars blindés qui font peur, qui découragent, qui peuvent même nous donner envie de changer finalement de direction ou de faire les choses autrement. Peut-être c'est le cas de plusieurs ce matin. Et je voudrais nous encourager avec le fait que la Bible nous dit « Dieu combat pour nous ». Ce que dit la Bible, Dieu combat pour nous, Dieu combat avec nous. Combat, c'est pas juste Dieu combat pour nous, Dieu combat avec nous. Et si on est dans une situation où il y a des difficultés devant, on est dans l'attente et il y a des incertitudes par rapport à ce que Dieu va faire, ou comment il va le faire dans nos vies, je nous encourage à pas juste attendre sur le canapé la fin du match où Dieu va combattre pour nous. On n'est pas en train de regarder un match de boxe où Dieu a mis les gants et où on attend qu'il gagne. On est dans un contexte où on met les gants avec lui. Et par la foi, on va aller faire notre part. On va aller faire notre part. Oui, il y a des forêts où il y a des fortifications pour ces deux tribus-là. Eh bien, ok, abattez les arbres. Soumettez ce pays. Soumettez ce pays. Et ne négligeons pas la part qu'on a à mener dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire avec nous. Pour chacun d'entre nous, c'est différent. Mais reconnaissons qu'il y a une part de combat, il y a une part de foi dans le fait que nous avons à soumettre des choses, et peut-être des choses dans nos propres vies. Peut-être que les chars, peut-être que les fortifications, des fois, sont des forteresses à l'intérieur de nous, de croyances, d'héritage aussi de nos familles, des choses qui ne sont pas justes, qui nous ont été dites et qu'on a besoin de remettre à la lumière de Dieu et de ce que lui, il dit et de ce que lui, il peut faire. Ne négligeons pas ce que nous avons besoin de soumettre. Qui est déjà vaincu, hein ? La victoire, elle est déjà en Christ. Donc, dans ces cas-là, on a besoin de lever les yeux vers Dieu, on a besoin d'espérer en lui et on a besoin de marcher dans ce qui est juste avec foi. Et enfin, dans ce partage, on a 7 tribus qui négligent complètement de prendre possession. Elles sont bien, elles sont en paix et elles se reposent après les batailles. Et Josué 18:3, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ce que Dieu vous a promis depuis Abraham, en passant par Isaac, Jacob, Moïse, Josué. Cette promesse, elle a été rappelée tellement de fois. Ils sont là et pourtant, ils négligent d'aller au bout de la promesse. Ils négligent de voir que la promesse de Dieu était bien plus que d'être juste dans le pays promis, mais que c'était d'en prendre possession, que c'était d'hériter de cette terre. Et donc, Josué, il envoie un groupe pour tracer un plan et désigner ensuite par le sort les parts pour Benjamin, pour Siméon, pour Zabulon, pour Issacar, pour Asher, pour Nephtali et pour Dan. Et le partage ensuite, il est fait entre ces tribus et puis elles peuvent prendre chacune sa part. Et Dieu donne. Je crois que c'est quelque chose qu'on voit au travers de ces différentes situations, ces différentes tribus. Et c'est une vérité que je voudrais qu'on se rappelle, c'est le fait que Dieu donne. Dieu promet et Dieu donne. Et on peut avoir des batailles pour saisir ces promesses, ou alors on peut rester passif dans une forme d'apparente paix dans nos vies. Et j'ai entendu tellement de fois des gens mesurer la justesse du chemin sur lequel ils étaient à la paix dans laquelle ils étaient. Vous avez jamais entendu ? Moi le premier, hein. Pour ça que je le dis assez facilement. Moi le premier, j'ai mesuré le fait d'être au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, parce que j'étais en paix. Eh ben, non. C'est pas toujours comme ça. Et je veux juste insister sur le fait que c'est pas toujours comme ça. Et ça veut pas dire qu'on peut pas mesurer le fait d'être au bon endroit par le fait qu'on est en paix. Oui, mais c'est pas toujours comme ça. Si vous pensez qu'on était tout le temps en paix ces derniers mois avec Véro, non. Non. Et on n'est pas des modèles, hein. Enfin, on prend l'exemple parce qu'il est concret, mais on n'est pas des modèles de foi de plus que n'importe qui d'autre. Je veux juste témoigner du fait qu'on a douté, du fait qu'on a été ébranlé, voilà, comme n'importe qui d'autre, et que ça nous a demandé juste de nous rappeler à chaque fois, Dieu a parlé. Et c'est la seule chose qui nous a tenus dans tout ce qu'on a traversé. Dieu a parlé. Et alors si Dieu a parlé, alors ça va fonctionner. C'est qu'il va pouvoir. On a commencé les cartons de la maison, on n'avait pas encore de logement. Les premiers cartons qu'on a faits, on n'avait pas encore de logement. On devait partir de chez nous, on n'avait pas encore de logement. Ça fait de nous des héros ? Non. On était fébriles. Mais Dieu a parlé. Et c'est ce qui nous a tenus. Le lendemain, on a eu un coup de fil qui nous disait « Vous avez un appartement. » Gloire à Dieu. Et ça a été comme ça pour tellement de choses. On a été fébrile, souvent. On a douté, souvent. Mais la seule chose qui nous a fait tenir, c'est notre foi dans le fait que Dieu avait parlé. Notre foi dans la promesse et notre désir de dire on veut aller jusqu'au bout de cette promesse. Et on ne veut pas s'arrêter juste aux premières victoires. On ne veut pas se reposer après le fait que j'avais trouvé un travail. Ah ben super, si j'ai trouvé un travail, c'est que Dieu pourvoit. Et donc le reste va venir. Non, ça nous a demandé du travail. Ça nous a demandé de mettre notre foi en action dans plein de décisions et d'aller au bout de ce que Dieu promettait. Mais on n'en est pas au bout. Hein. Dieu a promis encore plein de choses et on ne les a pas vues. Et je voudrais nous interpeller sur la valeur qu'on accorde dans nos vies à ce que Dieu dit, à sa parole. Quelle est la valeur qu'on accorde au fait que Dieu parle dans nos vies ? Est-ce qu'on y attache de l'importance ? Est-ce qu'on chérit cette parole-là dans nos cœurs ? Est-ce qu'on recherche ce que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous ? Je crois que c'est important de nous souvenir de ça et de rechercher. Seigneur, tu as dit quoi dans ma vie ? Recherchons les moments où Dieu nous a parlé d'une manière particulièrement forte, précise, et chérissons ces choses-là. Elles sont des instruments pour nous de regarder à ce que Dieu a parlé, à ce que Dieu a dit pour chacun d'entre nous. Amen. Donc souvenons-nous, Dieu fait sa part, mais nous avons la nôtre à faire. Dieu nous arrache aux ténèbres, mais nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dieu nous plante dans le royaume du Fils, mais nous devons revêtir les armes de la lumière. Dieu y fait pleuvoir sur la terre, mais nous devons préparer les champs pour que ça pousse. Dieu sauve, mais nous devons confesser qu'il est sauveur et qu'il est Seigneur. Dieu a pourvu pour qu'on soit digne d'être dans sa présence, mais nous devons rechercher sa présence dans nos cœurs. Dieu a promis un pays à Israël, mais il fallait se lever, passer le Jourdain et conquérir et prendre possession de ce pays. Et dans toutes ces tribus qu'on a citées, il y en a une qu'on n'a pas citée. Une des tribus d'Israël qui a eu une part particulière. C'est la tribu de Lévi. Les Lévites, ils n'ont pas reçu de terre. Josué 18:7, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et on retrouve ça dans Nombre 18-20, ça avait été annoncé avant. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Et vous savez quoi ? Nous sommes des Lévites. Nous sommes des Lévites. Des sacrificateurs, des Lévites. Voilà notre part au milieu de l'héritage de cette terre qui était promise. Quand David il a fait la préparation pour le temple, sa construction, tout ça, on peut lire dans Chronique, en fait, il a nommé une partie des Lévites en tant que chantres, une autre en tant que portiers. Il y en a qui s'occupaient de l'administration des fonds. Ils étaient aussi là comme intendants, comme juges, aussi là pour l'enseignement. Et on voit, en fait, dans la description de cette tribu, l'image des chrétiens. Ils sont mis à part, ils sont consacrés, ils sont appelés à servir le Seigneur. Et si on a fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur, si on a fait la paix avec Dieu par la croix de Jésus, alors le Seigneur, il nous demande nous aussi de nous mettre à l'écart pour lui appartenir. De la même manière que cette tribu, c'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 6. Et tous les Lévites, ils devaient servir le Seigneur, oui, mais ils n'occupaient pas tous la même fonction. On l'a lu avant, il y avait plein de fonctions différentes au sein du temple qui étaient confiées à ces Lévites-là. Et de la même manière, nous, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à servir, mais nous n'avons pas tous reçu la même vocation. Le corps, la multiplicité des membres, la complémentarité des membres, le fait d'être membres les uns des autres, le fait d'œuvrer ensemble, d'accepter ces différences-là, ça vous parle ? Romains 12, 1 Corinthiens 12, nous sommes nous aussi mis à l'écart, ayant des vocations différentes au milieu de ce monde-là. Et la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël, donc celle à laquelle on peut se comparer aujourd'hui, eh bien dans ces 7 chapitres où chaque tribu reçoit une part qui lui était promise, la seule à laquelle nous pouvons nous identifier pleinement, c'est celle de Lévi. Et son héritage, c'est moi qui suis ta part et ta possession, lui dit l'Éternel. Voilà notre seul véritable héritage. C'est pour ça que je parlais d'héritage et de promesse. Notre seul héritage, les amis, la seule véritable possession, c'est Dieu, la présence de Dieu. Tout le reste ne sont que des promesses que Dieu accomplit dans nos vies, mais l'héritage que nous avons, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un héritage plus grand à espérer ? Est-ce qu'on doit être déçu ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que de savoir que Dieu se donne ? Que Dieu se donne en possession. Dieu n'est pas dépossédé, hein, on est d'accord de ce qu'il est. Mais Dieu se donne à son peuple, Dieu se donne à chacun d'entre nous. Il nous donne sa présence. Ce qui se passe pour les Lévites, c'est, pour moi, c'est vraiment une préfiguration de cette promesse plus grande de Dieu qui se donne au travers de Jésus-Christ. Ça nous parle que l'héritage, c'est Dieu qui se donne. Et puis c'est aussi une préfiguration du moyen par lequel il se donne. La vie éternelle auprès de Dieu, c'est ça notre héritage. Et on va célébrer bientôt Noël, on l'a lu ce matin, un sauveur nous aidé, un fils nous est donné. Et Dieu se donne, Dieu est suffisant, c'est ça notre part, c'est ça que nous devons rechercher en premier. Et tout le reste nous est donné par-dessus, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Alors après, combien d'autres choses dans nos vies est-ce que nous courons qui ont plus de valeur que la présence de Dieu ? Je voudrais juste nous interpeller sur la part que c'est. C'est notre héritage. C'est ça qui nous est donné par Dieu. Véritablement. Et rien d'autre. Sa présence. C'est pas juste des jolis mots ce matin. J'aimerais vraiment que ça pénètre les cœurs et que ça modifie notre manière d'avancer et ce pourquoi nous courons dans nos vies. En tout premier, courons après la présence de Dieu. Est-ce que dans nos vies, nous avons de la place, et je dis nous parce que je me le dis aussi, est-ce que nous avons de la place pour la présence de Dieu ? Est-ce que nous avons une place suffisante pour la présence de Dieu ? Les responsables, est-ce qu'on ouvre notre Bible que quand on a un message à préparer ? Ou est-ce qu'on se nourrit de cet héritage parfait qu'est la présence de Dieu et sa révélation dans sa parole. Et nous tous, est-ce qu'on chérit cette présence? Est-ce qu'on lui laisse du temps dans notre agenda? Est-ce qu'on lui donne une place particulière? On en parlait dans la voiture avec Sylvain ce matin, c'est marrant. Et ça ne veut pas dire qu'on doit rien posséder, hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit refuser tout plaisir. Et je rappelle que dans ce que les Lévites ont reçu dans cette part, ils étaient aussi au bénéfice de la dîme et des offrandes qui étaient faites par le peuple au temple. Donc ils étaient au bénéfice, Dieu pourvoit pour toute chose. C'est pour ça que je dis rechercher premièrement, tout le reste est donné par-dessus. Alors que nous faisons de la présence de Dieu notre priorité, nous sommes au bénéfice de bénédictions spirituelles et matérielles en abondance. Et je ne prêche pas un évangile de prospérité. Bien sûr qu'il y a aussi des tribulations et des défis. Et bien sûr que Dieu est présent et que Dieu bénit même dans la souffrance. Mais reconnaissons aussi l'immense générosité de Dieu, ses bénédictions sur nous. Alors que nous marchons avec foi et alors que nous le mettons en premier dans nos vies. Mais rappelons-nous hein, que ces bénédictions ne sont pas notre héritage. Et que les promesses que nous voyons s'accomplir dans nos vies ne sont pas notre héritage. Notre héritage, c'est la présence de Dieu. C'est ça que nous devons chercher. C'est ça que nous devons mettre en premier. Et je vais conclure ce message. Depuis Abraham, à qui Dieu a fait la promesse d'une terre pour lui et pour ses descendants, en passant par Isaac, par Jacob, par Moïse, à qui Dieu rappelle cette promesse. Et puis ensuite, Josué, qui envoie enfin l'accomplissement alors qu'il se lève et qu'il va conquérir cette terre promise. Et jusqu'à nous, en tant que sacrificateurs, en tant que Lévites, qui recevons comme héritage le don de la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. On a vu ce matin comment les promesses de Dieu elles s'accomplissent de génération en génération. On a vu comment, au travers de ces passages, Dieu nous montre aussi que ces promesses, elles dépassent souvent le cadre de nos propres vies. Nous n'en sommes souvent pas les seuls bénéficiaires. Et souvent, on a tendance à chercher l'accomplissement des promesses de Dieu à l'échelle de notre propre vie. Et ce qu'on voit souvent Dieu faire, c'est que ce qu'il promet a un impact beaucoup plus grand qu'une seule vie, mais qu'il a un impact sur plusieurs générations, il a un impact sur ceux qui sont autour. Est-ce que ce que Dieu veut faire dans ta vie est utile pour plus que ta vie? Ce que Dieu veut faire dans ta vie aura forcément un impact plus grand que ta propre vie. Ce qu'on voit dans toute la parole. Parce que l'évangile, c'est pas un voyage solitaire. C'est pas un voyage solitaire. Le salut n'est pas une œuvre solitaire. Nous sommes sauvés individuellement, chacun d'entre nous, mais nous sommes appelés ensemble, le peuple. Nous sommes appelés ensemble l'Église. Nous sommes appelés ensemble l'épouse. Ceux pour qui Jésus revient. Alors marchons, transmettons, multiplions dans cette perspective-là. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant sur les promesses de Dieu, sur les combats qui sont à mener, accordons une part importante à cette transmission. Je suis convaincu qu'Abraham a parlé de ça à son fils, qui a parlé de ça à son fils, qui a parlé de ça à son fils. J'en suis convaincu. Et quand Dieu rappelle à Josué, Josué n'est pas étonné de ce qu'il entend. C'est simplement un rappel de ce qui lui avait été dit. Oui, Dieu a promis et Dieu continue d'accomplir au travers. Il y a une transmission qui est là et c'est important parce que c'est un héritage qui est incroyablement précieux et merveilleux qu'on a en Jésus qui s'est donné. Et cette promesse de la vie éternelle, ne la gardons pas juste pour nous, les amis. Nous devons transmettre ça. Nous devons transmettre ça autour de nous. Nous devons être fervents pour annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Pour en parler à tous ceux qu'on croise, c'est une bonne nouvelle incroyable. Transmettons-la autour de nous, c'est l'héritage qu'on a reçu, partageons-le. La présence de Dieu. Et je crois que c'est aussi important qu'on transmette ça dans l'Église, les uns aux autres, qu'on soit des fervents encourageurs les uns et les autres, de dire « mais comment tu vis ?» La présence de Dieu. Est-ce que tu as du temps pour ça? Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? On va se retrouver dimanche, on va célébrer ce que Dieu fait dans nos vies, on va célébrer la présence de Dieu au milieu de nous. Soyons des transmetteurs. L'évangile n'est pas un voyage solitaire et les promesses ne sont pas des promesses individuelles. Elles ont un impact les uns sur les autres. Et particulièrement aux jeunes générations, et je voudrais terminer avec ça, soyons sensibles au fait que nous avons une responsabilité de transmettre. Et de la même manière que l'héritage se transmet de parents à enfants et d'une génération à une autre, je crois que c'est important qu'on ait une attention sur la génération qui est après nous. La Bible nous le dit dans Deutéronome 6, 1 à 9, et puis je finirai avec cette lecture-là, où elle parle de ce que Dieu promet et du pays qu'il va donner. Et voilà ce qu'il dit au milieu du rappel de cette promesse-là. « Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique, où ça ? Dans le pays dont vous allez prendre possession. » Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Il est question de génération, là, les amis. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. C'est une bénédiction que de transmettre cet héritage de génération en génération. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, sa présence, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Cet héritage ne doit pas être caché dans nos cœurs. Et cette présence de Dieu que nous chérissons, prions et agissons pour que les plus jeunes générations de l'Église en soient au bénéfice dès aujourd'hui. Des bébés qui ne savent pas encore parler, jusqu'aux adolescents qui commencent à faire des choix importants sur qui ils sont et ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Les jeunes adultes qui font des choix professionnels importants et qui ont besoin d'être saisis de la présence de Dieu pour faire ces choses-là. Mais jusqu'aux plus âgés de cette Église. Nous avons tous besoin de chérir cette présence de Dieu, de concevoir que c'est la part que Dieu nous a donnée. C'est ça notre possession. Chérissons ces choses-là. Transmettons. Soyons des transmetteurs de la présence de Dieu les uns aux autres. Amen. Amen.